Cours sur Mishnah Brura.
On est ici à la page Samer Dalet, chapitre 14, Alaha 4.
Donc juste en haut de la page, Alaha Dalet.
Moutar litol, c'est une Alaha très importante qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va concerner toutes les synagogues. Moutar litol talit travero. On a le droit de prendre le talit de son ami sans lui demander, s'il n'est pas à la synagogue, ou les varech aléa, et faire la bracha dessus. Ou bilvad, chez kapel ota im metsa'a mekupelet. À condition que s'il a trouvé le taïl plié, et de le remettre à sa place plié. Alors on verra dans le Mishnah Moura, il va expliquer qu'il y a quand même des restrictions. Mais à la base, on considère qu'une personne a envie qu'on fasse des midot avec son argent. Donc si j'ai un taïl que j'ai laissé à la synagogue, ça veut dire que ça ne me dérange pas, et au contraire, je suis content que quelqu'un va faire une mitzvah gratis au taïl. La seule chose que je demande qu'on me le replie comme j'ai laissé. Si j'ai laissé plier, je veux qu'on me le remette plié. Ve'u adin bitfilin, nous dit le Rama, il nous dit que c'est la même chose pour les tfilin. Les tfilin qui sont laissés à la synagogue, on considère que s'ils sont à la synagogue, ça veut dire que le propriétaire, ça ne le dérange pas que quelqu'un va utiliser ces tfilin à condition qu'il les remette comme ils étaient.
Même si
c'est un casier fermé, S'ils sont là et s'ils sont accessibles, c'est que ça ne le dérange pas. Aval, mais, assur l'ilmod misfarim shel chavero belo dato. Mais, on n'a pas le droit d'étudier dans les livres de son ami, belo dato, si on ne lui a pas demandé avant. Pourquoi ? De chayshinan shema ikra otam belimudo, parce que quand on sait très bien que quand on étudie, on abîme le livre. Bien sûr, c'est bien de l'abîmer comme ça, mais on l'abîme. Le propriétaire du livre, il va peut-être dire, moi, je veux pas qu'on m'abîme mes livres. C'est moi qui m'occupe de mes livres. Je veux pas qu'on m'abîme mes livres, donc ne touchez pas à mes livres. Alors il y a plusieurs halakhot. On va voir tout de suite ça dans le Mishnah Brura en bas. Dans le Mishnah Brura, vous prenez la dernière petite ligne. Vous voyez, il y a les petites lignes, après il y a les grandes lignes. Vous prenez la dernière petite ligne. Numéro de Dalet, Samer Dalet. D'accord ? Alors, Talit Travero. Le Mishnah Moura nous explique, il dit qu'est-ce que ça veut dire quand on parle du talit, donc de son ami. Il nous dit pirouche, ça veut dire chez l'omidato. Donc on parle bien d'un cas ici où je n'ai pas demandé à mon ami avant d'utiliser le talit. C'est-à-dire que je ne l'ai pas demandé et il ne l'a jamais fait savoir qu'il était d'accord qu'on utilise son talit qui est posé à la synagogue. De nichale, leinish, de leavit, mitzvah et mamoné. Parce qu'on considère qu'une personne veut qu'on fasse mitzvah avec son argent. Je vais vous donner un autre exemple. C'est un cas qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Imaginez-vous qu'un jour, vous n'avez pas votre talit et votre tefilin sur vous. Vous allez chez quelqu'un. Le mari n'est pas là, il n'y a que la femme. Et vous voulez lui emprunter cette tefilin. La femme te dit, bon, il faut d'abord qu'on demande, je vais demander à mon mari. Tu cherches à joindre le mari, injoignable. Et tu n'as pas encore mis les talit et tefilin. Est-ce que j'ai le droit de lui emprunter le talit et les tefilin? Pourtant, c'est même pas à la synagogue, c'est chez lui à la maison. D'accord? Est-ce que j'aurai le droit de lui emprunter ce talit et cette tefilin? À la limite, je les prends, bon, puisqu'il n'y a que sa femme à la maison, je les prends, je vais les mettre à la synagogue. Mais j'ai pas de talit et tefilin, qu'est-ce que je fais? Alors là, l'Halakha nous dit le Mishnah Brura, il nous dit que ni chale leinish de lavet mitzvah mamoné, d'accord? Une personne est intéressée à ce qu'on fasse mitzvah avec son argent, même s'il ne nous l'a pas dit. Même s'il ne nous l'a pas dit, il n'est pas là pour nous le dire. On part de la base que par défaut, une personne veut qu'on fasse mitzvah avec son argent. Parce que là, il ne va rien perdre, le talit, il a rien à perdre. Mais attention, elle est méchante, muette. On entend tout ce que vous dites. Hein. Il dit Vedavka Beakrai. Mais la condition c'est quoi? Vedavka Beakrai, ça veut dire il faut que ce soit temporaire. Il ne faut pas que tous les jours le gars il vienne à la synagogue et tous les jours il prenne le talit de son voisin. Il ne faut pas exagérer non plus.
Et s'il n'en a pas.
D'accord. Aval Bikviout Assour. Mais s'il le fait habituellement, là on dit il ne faut pas exagérer. On considère que certainement le propriétaire ne veut pas. Alors, il y a les croissants qui arrivent.
Non. Oui.
Alors, il continue le Mishnah Moura, il dit va filou beakrai, dafka beotomakom. Zakubaur. Merci beaucoup. Il dit va filou beakrai, dafka beotomakom. Servez-vous. Qui c'est qui va faire? Hazak.
Pour le shrout de...
Pour le mérite de Rosh Chodesh Nissan, le mois de miracle.
C'est un miracle d'ailleurs.
Ah, c'est un miracle qui devient habituel. Hein.
Nissan.
Nissan. Donc il dit ici, va filou beakraï dafka beotomakom. Et même si on prend le, même si on le prend temporairement, ça veut dire je prends le talit, je veux dire c'est exceptionnellement, le talit de mon ami, j'ai le droit de le faire dafka beotomakom, j'ai le droit de le faire seulement si je le laisse à l'endroit où je l'ai pris. Donc on reprend mon cas tout à l'heure. Je reprends mon cas tout à l'heure. D'accord ? Ah voilà. C'est la question. Donc Vedafka de Otomakom aval le tio mbetakneset oifra assur. Mais le faire sortir de la maison pour l'amener à la synagogue ou le contraire, c'est assur. D'accord ? Voilà, c'est assur. D'accord ? Def char chez Makpidalav, puisque ça on considère que c'est possible que le propriétaire est Makpid, ça veut dire qu'il fait attention à ça, il ne veut pas qu'on déplace son talit. Hein, parce que vous savez qu'un objet, une fois qu'il est déplacé, on n'est pas sûr qu'il va revenir. On n'est pas sûr quand il va revenir, on n'est pas sûr comment il va revenir, on n'est pas sûr qui va ramener. Donc là, dans ce cas, il dit, écoute, tu veux l'utiliser, tu t'en sers, mais tu restes ici.
Un objet ou de l'argent.
D'accord. Tu restes ici. Alors, ça c'est un premier point. Maintenant, on passe à...
Il est revenu tout seul.
Amen.
Amen.
Ok. Je vais passer au numéro de Tetzaïm. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, je vais les vendre pour Pessah, les farines. Alors, je vais passer au numéro de Tetzaïm. Tetzaïm, c'est au milieu des grandes lignes. Vous avez le numéro de Tetzaïm ? Ou vous êtes occupé avec les croisants ? On va passer au numéro tête Zayin, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, alors non, numéro tête Vav, on va passer, pardon. D'abord, on a dit que chez Ikapel Ota, on a dit que la condition, c'est qu'il faut replier la condition Mishnah Brura. Prenez la ligne qui commence par tête Vav. On a donné une restriction, on a dit qu'on a le droit d'emprunter le talit à quelqu'un sans lui demander la permission. À condition, on a dit qu'on le plie après l'utilisation. Alors, il nous dit, chez Yekapel Ota, écoutez bien ce qu'il dit, il dit que Kipula Arishon, il faut le replier exactement comme il était plié.
Prenez une photo avant de le déplier.
Parce que chacun a ses méthodes, comment il plie, et si le gars revient et retrouve son talit le lendemain matin qui n'est pas plié comme il l'a laissé, il risque de ne pas être content. Donc il dit, écoute, tu veux l'utiliser, tu t'en sers, mais tu vas utiliser ta mémoire, tu vas te rappeler comment il était plié, et tu le replies exactement de la même manière. Maintenant, ou bé Shabbat, lorsqu'on est Shabbat, je l'emprunte Shabbat, Yekapel Ota, Velo Kikipula Rishon. Dans ce cas-là, je dois le replier, bien que normalement Shabbat, on doit éviter de plier le talit, d'après plusieurs avis. Il dit que Shabbat, donc si tu veux faire ta khumra, si tu veux faire ta khumra de ne pas plier, tu l'as fait, mais pas sur deux autres. On est d'accord ? Donc tu le replies, mais tu ne le replies pas dans les plis initiaux, parce que ça c'est la vraie interdiction.
Tu le plies. Plus généralement d'accord. Pour celui qui a été emprunté.
D'accord, alors tu le plies. Maintenant, ben Magan Avraham Mekel, Beshabbat chez le Kapelklal. Donc c'est l'histoire des talits de la synagogue. Le Magan Avraham dit que bon, si on veut, on peut ne pas le plier du tout pendant Shabbat, mais à condition bien sûr de s'assurer que juste après Shabbat, on le pliera. C'est pour ça que dans les talits de la synagogue, il y a beaucoup de gens qui utilisent les talits de la synagogue, et qui ne les plient pas après. Pourquoi ils ne les plient pas ? Soit par flemmardise, d'accord ? Soit parce qu'ils disent on n'a pas envie de plier le talit de Shabbat, parce qu'il y a des avis qui interdisent de plier Shabbat. De plier tout ce qui est plié, des avis qui est interdit. Alors c'est quoi la réponse ? La réponse elle est que la seule permission de le plier après Shabbat, c'est... La seule permission, pardon, de ne pas le plier, quand c'est un talit qui ne m'appartient pas, c'est si je le plie après Shabbat. Mais sinon, c'est un problème. Vous savez ce qu'il dit le Kafahaim ? Le Kafahaim, il ramène au nom du Chida. Il dit que c'est pas bien de laisser un talit pas plier.
Bien sûr.
Et à tel point qu'il ramène le minak, c'est un minak qui est partout aujourd'hui, pas seulement chez les Sfaradim, mais chez les Ashkenazim. On a l'habitude que le soir, Motzei Shabbat, lorsqu'on plie le talit, si on ne l'a pas plié pendant la journée, on a l'habitude de donner un petit coup après sur le talit. C'est-à-dire on le plie, après on donne un petit coup dessus. Prendre un coup. D'accord ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi on prend un petit coup ? Vous savez pourquoi ?
Hein ?
Parce que justement, il dit que spirituellement, enfin, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, hein.
Il y a
toutes sortes d'esprits. Non, il y a des esprits qui, quand un talit n'est pas plié, c'est pas bon pour le porteur du talit. Ça c'est écrit.
Moi j'ai un truc que c'est une ségoula de plier après Shabbat, c'est une ségoula pour la femme,
pour le Shalom Bay. Bien sûr. D'accord.
La longueur de la femme.
Mais attention, mais il faut le plier. Attention. Il faut faire attention à le plier. On fait attention à le plier Motsé Shabbat, de ne pas attendre le lendemain. Et si on a oublié, on a attendu le lendemain, d'accord ? Ce qu'on fait, c'est tout de suite qu'il faut donner. Il faut le plier Motsé Shabbat. Il y a beaucoup d'avis qui interdisent de plier Shabbat parce que ça s'apparente à une des mélachot de Shabbat.
Moi, j'ai toujours entendu ça.
C'est pas le préparer de Shabbat pour Hol.
Il y a plusieurs problèmes. Voilà. Il y a d'abord un problème, c'est de plier, de plier selon certains avis. Si on plie dans les plis initiaux, c'est interdit. D'accord ? Il y a un autre problème aussi, c'est de préparer du Shabbat au Hol. Maintenant, il y a des gens qui ont le talit du Shabbat.
Eh oui.
Dans ce cas-là, la question ne se pose pas.
Pourquoi les plis initiaux ?
Pourquoi ?
Les plis initiaux ?
Parce qu'on dit qu'on considère que quand on reprend les plis initiaux, il y a une certaine finition. Une certaine finition qui assure pendant Shabbat. D'accord ? Bon. Si, en général, on le plie dans les plis initiaux.
Il y en a qui s'évertuent à plier dans les plis. Ils se bagarrent.
Normalement, on plie dans les plis initiaux.
Que ceux qui veulent plier.
Tu plies pas ton talit tous les jours de la même manière ?
Il faut pas être dérangé pour faire ça, faut être normal.
Tu peux dire si c'est un talit du Shabbat.
Alors, Bélo Dato. Ensuite, on passe au numéro Tetzaïn. Donc, c'est important pour les talit et la synagogue. Ça veut dire que la seule permission d'attendre après Shabbat pour le plier, d'accord, c'est dans le cas où on va revenir le soir et qu'on va le plier. Mais sinon, c'est évident qu'il faut le plier même pendant Shabbat. Sauf que on essaye de ne pas le plier sur les plis initiaux pour pas rentrer dans un problème. Mais on le plie, d'accord, parce que c'est pas resté pour la synagogue, j'ai pas mon talit. Quand c'est mes affaires, je fais ce que je veux. Quand c'est les affaires d'un autre, tu le plies.
Ah, sur la synagogue aussi, on peut pas les plier dans les plis initiaux ?
Oui. Il y a plus de plis.
Je pensais que le sien, parce que c'était préparé pour...
Ceux de la synagogue, ça tombe bien, ils n'ont pas de plis.
Non, au-delà de ça, c'est vrai.
Parce qu'ils ne sont pas repassés, je ne les ai jamais repassés. Ils ont perdu leurs plis, donc c'est fini.
Mais le sien à la synagogue, on le plie aussi, en fait, comme ça, on ira, vite, ça va déranger. Comme
c'est Marc Loquette. Moi, je ne le plie pas. Je ne le plie pas, je le mets dans un coin. Eh ben, tout le monde dans un coin, c'est comme ça qu'on fait. On met dans un coin et c'est comme ça.
On plie dans l'autre sens.
C'est pour une mitzvah. Il y en a qui plient dans l'autre sens, il y en a qui plient, il y en a qui le plient en quatre, enfin, il y a plusieurs méthodes. Moi, je ne le plie pas du tout.
Un gros joint.
Je ne le plie pas du tout, je le mets dans un coin ou dans un placard, etc. Et la synagogue du 770, par exemple, où personne ne plie son talit, eh ben, ça se passe très bien, bah, au Hachem. Je n'ai pas vu qu'il soit une pagaille particulière.
Oui, mais attends, pour retrouver son talit, ça ne doit pas être évident. Pour retrouver son talit, ça ne doit pas être évident.
Surtout après, je mets un siman. Moi, je sais, j'ai des tâches particulières dans deux, trois endroits dans le talit.
Celui qui te le prend, il ne sait pas que tu as des semaines, peut-être qu'il n'y en a pas, il les prend quand même, hein, je veux dire.
Et s'il emprunte, il doit le remettre en boule comme je l'ai mis. Alors, je passe au numéro Tetzaïn. On avait dit que des livres, alors ça c'est intéressant parce que je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva, sur les livres, il y avait des gens qui écrivaient, ils disaient, vous avez le droit d'utiliser mon livre, mais à condition de le remettre à sa place initiale. Parce que normalement, selon la halakha, par défaut, on considère qu'un propriétaire ne veut pas qu'on utilise ses livres. Pas parce que ça le dérange, mais parce qu'on va lui abîmer. Et il nous dit, le Mishnah Moura ici, il dit, va filou be'akra be'alma. Même si juste je prends le sefer, juste je l'ouvre comme ça quelques minutes, je regarde. C'est pas que je vais étudier ma page de Gemara dessus pendant 2 heures. Juste j'ouvre la page, je reste quelques minutes dessus. C'est assur. Pourquoi ? Des chayshinan shema ikra ba'em arbe atchikrom ravamishmous. Parce que quand on commence à étudier, c'est accoutumant. Et même si on veut étudier 5 minutes, on risque de se retrouver à étudier 1 heure, d'accord ? Vous savez, des fois on ouvre un livre, on veut étudier, on va regarder 5 minutes, et du coup il se met à étudier 1 heure, et il va abîmer le livre. Un livre, il s'abîme. Et moi je vois mes livres, d'accord ? Je vois que les pages que j'ai étudiées, je vois qu'elles sont soit un peu cornées, soit un peu jaunies, on voit tout de suite les pages qu'on utilise. Donc ils sont faire, il dit, écoutez, tu fais ce que tu veux avec ton livre, mais tu ne le fais pas. Ve'aolam noagim, maintenant écoutez bien. Ve'olam noagin kishemotzim sidur tfila omarzov betakneset chez le krimoto kedelit palelbo. Il dit maintenant, dans les faits, les gens ont pris l'habitude. Le monde, les gens ont pris l'habitude. Quand ils trouvent un livre de prière à la synagogue ou un marzor, donc de fête, avec un nom, ils ont pris l'habitude de l'utiliser, d'accord, et ils le remettent après à sa place. Il dit veni ode eterlazé. Mais il dit honnêtement, je ne sais pas d'où ils ont pris la permission pour le faire. De maishna sidur misfarim, d'accord. Parce que en quoi un sidour est différent des sfarim ? Si tu m'as dit que pour un livre de Torah, c'est interdit parce qu'on va l'abîmer, ben a priori, un livre de prière, c'est la même chose. Mais bon, dans les faits, là-bas, le premier Gazim dit que puisque les gens le font, donc il faut dire que certainement, il doit avoir une permission, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi ils le font.
Non, parce que c'est ça.
Les gens le font.
Parce qu'un livre d'accord de sidour est beaucoup moins cher.
Oui, mais
durée de vie
il est beaucoup moins cher, mais il appartient à quelqu'un.
C'est vrai.
Il ne te permet pas.
Mais sa destruction est assurée dans les deux, trois.
Et pas seulement ça, un Sidour. Combien de temps on tient en main un Sidour? Je vais vous dire plus que ça. Combien de temps on tient en main un Sidour?
Une heure.
Shabbat. Deux heures. D'accord. Entre deux et trois heures. D'accord. En plus, le Sidour, on va le secouer, ça veut dire on va se lever, on va le poser, etc. Il va prendre des coups, le Sidour. D'accord. Donc il y a plus de chances de dire qu'au contraire, le propriétaire est encore plus dérangé. Si c'est un simple livre de Torah qu'il aurait posé pour étudier sur une table, bon, il l'a posé, je veux dire.
Ça a moins de valeur,
c'est même au niveau. Non, c'est... Moi, d'après moi, c'est d'accord. Une histoire de...
Alors, en tout cas, sachez qu'il interdit. Voilà. Il dit, je ne sais pas de où ils ont pris la permission. C'est une manière de dire, c'est pas permis. D'accord. Donc, alors maintenant, j'ai vu un autre psaque, d'accord. J'ai vu une autre halakha. Qui dit qu'on considère qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres à la synagogue. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres qui appartenaient à la synagogue.
Donc, évidemment,
donc effectivement, chaque personne qui amenait son livre, tenait à son livre, et s'il amenait son livre à la synagogue, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres livres. Mais aujourd'hui, qu'il y a des livres à la synagogue, donc une personne, normalement, n'a pas besoin d'amener son livre. Il n'a pas besoin ni de l'amener, ni de le laisser. Il n'a pas besoin. Donc aujourd'hui, on part de la base que celui qui amène son livre et qui le laisse, étant donné que la majorité des livres qui tournent dans la synagogue sont des livres de la synagogue, et que celui qui va prendre un livre, c'est pas forcément hein, qui va ouvrir pour voir, dire, ah, ça appartient à quelqu'un.
Il n'a pas besoin d'ouvrir d'amener un patard.
Dans ce cas-là, on considère que même s'il y a un nom qui est écrit sur le sidour, on considère que s'il est laissé à la synagogue, c'est que le propriétaire, ça ne le dérange pas si on l'utilise. Mais, un autre point aussi qui revient dans les décisionnaires, disent que quand c'est un livre qui appartient à la synagogue, il y a des synagogues dans lesquelles ils disent explicitement interdiction de sortir de la synagogue. Maintenant, il y a des livres comme chez nous où on n'écrit pas. Et c'est pas parce qu'on n'écrit pas que c'est permis. C'est assourd. D'accord. C'est-à-dire que normalement, un sidour qui ne m'appartient pas, ou un livre qui ne m'appartient pas, j'ai pas le droit de m'en servir. Et même si j'ai le droit de m'en servir, parce que on va dire qu'il est fait pour ça, il est fait de la synagogue, mais j'ai pas le droit de le faire sortir de la synagogue. Pour le faire sortir, il faut demander la permission. Et si je ne demande pas la permission, c'est du vol, c'est du gazelle. Même si c'est pas écrit. Un livre où c'est écrit que c'est interdit, c'est sûr que c'est interdit. Mais même si c'est pas écrit, puisque le livre appartient à la synagogue et qu'on sait très bien, je peux vous dire aujourd'hui,
on le prend pour le ramener.
Aujourd'hui j'ai certaines statistiques, je peux vous dire que les gens qui prennent un livre et qui disent je le ramène, s'il y a 50% qui ramènent, c'est déjà pas mal. Je peux vous dire, je sais. D'accord, je sais les chutes de livres qu'il y a.
Quand ça fait un livre de bibliothèque.
Exactement, voilà, livre de bibliothèque. On a beau mettre le tampon et le nom, moi je mets toujours le tampon pour mes livres, d'accord. Quand je prête à quelqu'un, si je ne le rappelle pas, je suis pas sûr qu'il va revenir. Donc, tu veux l'utiliser, tu t'en sers, et tu le laisses sur place. Ça, c'est la règle, la règle principale. Je finis avec la halakhah, on s'arrête ici. Talit shel shutafin chayavev betitit. Un talit qui appartient à des associés. Aujourd'hui, au Hachem, ça vaut tellement pas cher que c'est des réalités qui n'existent pas.
Ça existe.
D'accord ? Oui, ça existait. Mm-hmm. Bien sûr, ça existait. À l'époque, bien sûr, il y avait des gens qui avaient un vêtement. Un seul vêtement qui leur appartenait, et ils n'avaient pas de quoi acheter un talit. Donc ils pouvaient se mettre à deux ou à trois pour acheter un talit. Dans les réalités de l'époque, il y avait des gens qui avaient un seul vêtement. Deux vêtements maximum. C'est les réalités de l'époque. Tu sais que précédent, c'était comme ça. Donc, il nous dit ici qu'un talit qui appartient à des choutafines, donc à des associés, chayevet betitit. On aurait pu penser que, puisque tu m'as dit qu'il faut que le titit m'appartienne, on a dit que si le titit ne m'appartient pas, je ne peux pas faire la bracha dessus. Or, s'il appartient à des associés, il appartient à aucun intégralement. Donc est-ce qu'on peut faire la bracha sur ce titit? Il dit, on fait la bracha sur le titit. Pourquoi? Dirti, parce que c'est écrit, Al-Kanfe Bigdehem. C'est écrit sur les franges de leurs vêtements, au pluriel. Prends la Torah dit au pluriel. D'accord? Elle aurait pu dire sur les chaque personne devra mettre le titit sur les franges de son vêtement. Pourquoi elle dit de leurs vêtements? C'est la manière de dire que même si le talit appartient à plusieurs personnes, on peut faire quand même la bracha dessus. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire la bracha sur le talit qui appartient à la synagogue. Puisque le talit qui appartient à la synagogue, il appartient à personne. Il appartient à la communauté. Et puis qu'il appartient à la communauté, on aurait pu dire la même chose. Il appartient pas à une personne particulière. Pourquoi on peut faire la bracha dessus? Parce que comme c'est écrit Al-Kanfe Bigdehem, d'accord, donc on devra mettre les titres sur les coins de leurs vêtements, c'est pour nous dire que même si c'est un talit qui appartient à une communauté ou à plusieurs personnes, on peut faire la bracha dessus sans problème. Donc c'est pour ça qu'on fait la bracha sur le talit de la communauté. Ah non, là c'est pas la même chose.
C'est plus compliqué encore.
S'il
appartient à la communauté,
le loulav, il faut que le loulav appartient à la communauté, le premier jour de Sukkot, il faut qu'à chaque fois le chamage de la communauté le donne à la personne qui va faire la bracha. En lui disant je te le donne pour le moment de la bracha, à condition que tu me le rendes. C'est très spécial. C'est
vraiment compliqué. À lui, à propre.
Mais pour le talit, il n'y a pas ces restrictions. Parce que le talit peut appartenir à plusieurs personnes. Voilà.
C'est vrai quoi, Michali?
Ça l'intéresse. Michali, ça l'intéresse.
Michali, ça l'intéresse.
Ouais. Alors, on a fait un cours un peu plus court. Un cours un peu plus court aujourd'hui.